Il est 12h30 sur France Culture, c'est l'heure du journal de la rédaction. Journal présenté par Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Julie Gacon, bonjour à tous. Un climat de terreur en Turquie. Le président Erdogan poursuit les purges après le coup d'État raté d'il y a 2 semaines. On analysera la stratégie du pouvoir turc avec Nabila Hamel dans un instant. En France, l'enquête se poursuit après l'assassinat d'un prêtre dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray mardi. Alors qu'hier soir, 2 hommes arrêtés en Autriche ont été mis en examen, soupçonnés d'être en rapport avec les attentats du 13 novembre dernier. Précision à suivre avec Héloïse de Neuville. Au Brésil, l'ex-président Lula, inculpé pour tentative d'entrave à la justice, l'affaire Petrobras peut-elle saboter l'avenir politique de Lula? Nous irons au Brésil rejoindre notre correspondante Anne Vigna. Dans un monde où la violence paraît omniprésente, comment analyser le phénomène Pokémon Go, ce jeu qui rencontre un succès planétaire? Dans ce journal, on entendra un spécialiste en communication culturelle. En France, des rassemblements ont lieu dans les lieux de culte un peu partout en mémoire du prêtre Jacques Hamel, assassiné mardi dans une église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Des images de musulmans et de chrétiens main dans la main pour lutter face à l'horreur. Héloïse de Neuville, bonjour.
Bonjour.
L'enquête progresse avec la mise en examen hier d'un jeune homme de 19 ans. Hier soir donc, il est fiché S pour radicalisation, arrêté la veille de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray.
Oui, il est mis en examen pour association de malfaiteurs. Une vidéo d'un des 2 auteurs de l'attentat en train de prêter allégeance à Daesh a été retrouvé chez lui. Et comme vous l'avez dit, il se trouve que le jeune homme avait déjà été interpellé la veille de l'attaque dans le cadre d'une autre enquête des services de renseignement. Par ailleurs, 3 autres personnes se trouvaient hier encore en garde à vue. Il s'agit d'un mineur de 16 ans dont le frère est parti dans la zone irako-syrienne. Le 2e gardé à vue est un Français de 30 ans qui fait partie de l'entourage familial du 2e tueur, Abdelmalik Petitjean. Enfin, le 3e est un demandeur d'asile syrien interpellé dans l'Allier. La photocopie d'un passeport syrien a été retrouvée chez un des terroristes. Les enquêteurs soupçonnent qu'il appartienne à ce demandeur d'asile.
On apprend à l'instant que 2 gardes à vue sont toujours en cours dans cette affaire de Saint-Étienne-du-Rouvray, selon le parquet de Paris à l'instant. Dans l'autre enquête, celle sur les attentats du 13 novembre à Paris, des avancées aussi, Héloïse.
Oui, un Algérien de 29 ans et un Pakistanais de 35 ans ont été écroués hier à Paris. Les 2 hommes avaient été arrêté dans un centre de réfugiés en Autriche en décembre dernier. La justice les soupçonne d'avoir cherché à rejoindre la France pour participer aux attentats de Paris. Les 2 suspects avaient débarqué sur l'île grecque de Léros en octobre. Ils se sont mêlés au flux de réfugiés syriens en même temps que les 2 Irakiens qui se sont fait exploser près du Stade de France. Le suspect algérien aurait rejoint Daesh en février 2015 et le Pakistanais est soupçonné d'avoir été un artificier pour 2 groupes djihadistes réputés proches d'Al-Qaïda.
Merci Héloïse de Neuville. Alors que le parquet fédéral belge annonce lui l'arrestation hier soir de 2 hommes soupçonnés de préparer un attentat, sans plus de précision pour l'instant. En Syrie, les bombardements se poursuivent sur la ville d'Alep aujourd'hui, alors que le régime de Damas et la Russie avaient proposé l'instauration de couloirs humanitaires pour permettre aux populations de quitter la zone. 250 000 civils sont toujours pris au piège de la ville assiégée. Le président turc Erdogan poursuit les purges d'une main de fer après le coup d'État raté du 15 juillet. Hier, 3 grands patrons d'entreprise ont été placés en garde à vue et 17 journalistes arrêtés. Quant à ceux qui en Occident se permettraient de critiquer l'ampleur et la brutalité de la riposte d'Ankara, le président turc les appelle à, je cite, « se mêler de leurs affaires ». Nabila Hamel, bonjour.
Bonjour.
En 2 semaines, ce sont pourtant 18 000 personnes qui ont été placées en garde à vue, dont 9 600 poursuivies et en détention préventive. À cela s'ajoutent 50 000 limogeages.
Oui, les autorités turques ne mâchent pas leurs mots. Virus à extirper, grand ménage. Il s'agit de poursuivre toute personne soupçonnée d'être proche de Fethullah Gulen, l'ennemi numéro 1 du président Erdogan. Ankara n'en démord pas. Le prédicateur est accusé d'avoir inspiré le coup d'État du 15 juillet, ce que Fethullah Gulen a toujours nié depuis son exil volontaire aux États-Unis. Aujourd'hui et 2 semaines après le coup d'État militaire avorté, c'est donc en victime et en sauveur de la démocratie que Tayyip Erdogan prend à témoin l'opinion publique turque pour mener d'une main de fer sa chasse aux sorcières. Vous avez donné les chiffres. Entre les arrestations, les limogeages, les fermetures de journaux, les passeports annulés, c'est une purge qui touche tous les secteurs. L'armée au premier chef, la justice, les ministères, l'administration, l'éducation, les universités, les journalistes, les médias, jusqu'à certains patrons d'entreprise hier. Et l'état d'urgence étant décrété pour 3 mois, cela ne va certainement pas s'arrêter, tant la méfiance est désormais grande. Ankara a par exemple décidé d'équiper la police d'armes lourdes, ce qui pourrait être destiné à contrebalancer l'influence de l'armée. Par ailleurs, le juge français Marcel Lemonde, chargé dans le passé d'aider à moderniser le système judiciaire turc, a parlé d'un climat de terreur qui empêche, selon lui, la tenue de procès équitables. En tout cas, Ankara rejette, vous l'avez dit, toute critique avec cette parade formulée hier par le président Erdogan. Tout pays qui ne se préoccupe pas autant de la vie du peuple turc que de la vie des putschistes n'est pas notre ami. Fin de citation.
Merci Nabila Hamel. Et pendant ce temps, l'armée turque annonce avoir tué au moins 25 combattants du parti des travailleurs du Kurdistan hier dans le sud-est du pays. 8 soldats turcs seraient morts dans cet affrontement près de la frontière avec le nord de l'Irak. La Tunisie, elle, pourrait se retrouver sans gouvernement dès aujourd'hui. Les parlementaires doivent se réunir pour un vote de confiance envers le gouvernement du premier ministre Habib Essid. Mais la plupart des partis annoncent déjà qu'ils voteront contre. Quel avenir pour Lula au Brésil? L'ancien président, leader historique de la gauche brésilienne, devra répondre devant la justice pour tentative d'entrave à la justice dans le cadre du scandale de corruption Petrobras, le géant pétrolier. Au Brésil, les précisions de notre correspondante Anne Vigna.
C'est une inculpation qui pourrait bien empêcher l'ancien président de revenir au pouvoir. Cette accusation, comme le fait qu'il aurait bénéficié de privilèges, dont un appartement, repose à chaque fois sur le témoignage d'anciens corrompus. Lula se trouvait avec la principale centrale syndicale quand il l'a appris et il a réagi à cette information.
Je viens d'apprendre que je viens d'être inculpé pour tentative d'entrave à la justice. Nous allons voir de quoi il s'agit, car je viens juste de l'apprendre. Je suis vraiment fatigué. Je n'ai pas à prouver que j'ai un appartement. Ceux qui doivent le prouver, c'est la presse qui m'accuse, le parquet qui dit que je suis propriétaire. Ce n'est pas moi, mais eux qui doivent le prouver.
Dimanche dans les rues, on va donc revoir son effigie habillée en prisonnier, puisque ceux qui veulent le départ du Parti des Travailleurs appellent à nouveau à manifester. Leur mot d'ordre reste la destitution de la présidente Dilma Rousseff, qui devrait être votée par le Sénat fin août ou début septembre. Mais Lula reste le favori des Brésiliens pour la prochaine élection présidentielle selon tous les sondages. Et il semble bien que seule la justice pourrait l'empêcher de redevenir pour la troisième fois le président du pays.
Anne Vigna, notre correspondante au Brésil. Chez Air France, le mouvement de grève se poursuit aujourd'hui. 1 vol sur 5 annulé en moyenne. Les plus touchés sont les vols moyens courriers avec 30% d'annulation. Hôtesses et stewards demandent une renégociation des accords collectifs. C'est un succès planétaire, le jeu sur smartphone Pokémon Go. Le principe, c'est d'attraper ces petits personnages qui apparaissent par magie quand on prend en photo certains endroits précis. Jamais un jeu n'avait envahi le réel à une telle échelle. C'est un jeu pervasif qui brise des codes sociaux, temporels et spatiaux. Alors un jeu pervasif, qu'est-ce que c'est? Les explications d'Hugo Schmidzi. Il est spécialiste en communication culturelle, auteur d'une étude sur les jeux pervasifs justement.
La grande différence des jeux pervasifs par rapport à des jeux classiques, sa définition a été donnée par Joseph Huizinga, un historien qui a notamment travaillé beaucoup sur l'histoire culturelle dans le monde. Son idée était de dire que le jeu pervasif, en fait, casse le cercle magique. Le cercle magique est un espace et un temps qui permettent de limiter le jeu selon 3 aspects. Donc l'aspect social, on sait quand la personne est joueuse ou n'est pas en train de jouer. L'aspect temporel, où effectivement, que ce soit le temps d'un Monopoly ou le temps d'un jeu de société, on sait plus ou moins combien de temps va durer la partie. Et un aspect d'espace, puisque sur un jeu entre guillemets classique, on sait où se déroule le jeu. On est autour d'une table, on est sur un terrain. Dans le jeu pervasif, du fait de briser ses codes, on ne sait pas où sont forcément les limites du jeu, à quel moment un personnage va être joueur ou au contraire il va être sorti du jeu. On voit que la fiction et donc le jeu s'est totalement introduit dans le réel, ce qui de fait amène des nouvelles questions. C'est l'effort physique demandé par le joueur. Aujourd'hui, une personne va être plutôt douée à Pokémon Go parce qu'elle a une bonne endurance, parce qu'elle a la volonté de marcher beaucoup. Disons que cette questions-là pourraient être amplifiées demain avec des jeux qui pourraient demander beaucoup plus de compétences aux joueurs, notamment ce qu'ils ont pu apprendre dans leurs études, leur savoir-faire, leur savoir-être dans la société, mais aussi à l'inverse, ce qui peut être appris dans le jeu pourra éventuellement demain être réutilisé dans la vie de tous les jours.
Hugo Schimizzi, spécialiste en communication culturelle au micro France Culture d'Hélène Masquelier, un dossier complet à retrouver sur franceculture.fr. Le temps pour votre samedi après-midi, alternance de ciel voilé, parfois quelques averses sur la majeure partie du pays, des orages aussi en fin de journée, soleil en revanche au bord de la Méditerranée et des températures comprises entre 18 et 33 degrés.